Jordanien.
Dann geht
France Inter, le 18-20, Fabienne Sintès.
Un jour dans le monde, c'est un jour en Irlande ce soir.
And I do accept this nomination to serve as Taoiseach, and I commit to doing everything that I can to honor the trust that you have placed in me today.
Il s'appelle Simon Harris, c'est lui qui vient de prêter serment, ça s'est passé hier mardi. Bonsoir Christophe Gillissen.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen, Normandie. Vous êtes en duplex de France Bleu Normandie, on remercie nos amis de vous accueillir. Tiens, d'abord j'ai une petite curiosité, est-ce que vous pouvez nous dire comment on prononce, on l'a à peine entendu, Premier ministre en Irlande?
Alors, le terme gaélique, c'est Taoiseach.
Voilà, Taoiseach, c'est comme ce qu'on vient d'entendre. Alors, on sait si peu de choses de l'Irlande, au fond, Christophe Gillissen, sur cette République d'Irlande. En tout cas, de très grandes lignes, dont certaines ont ressurgi après le Brexit. On s'est remis à parler de réunification. On connaît un système fiscal avantageux autour des GAFAM. On a suivi de loin des mouvements de protestation qui ont pu être extrêmement forts autour du climat, mais pas seulement. On parle de politique de logement insoluble. Il y a beaucoup de choses avec un Premier ministre aujourd'hui qui est le plus jeune de cette République. On lit beaucoup que c'est une république en vent contraire. Est-ce que c'est comme ça que vous la définiriez aujourd'hui ?
Ah oui, aujourd'hui la situation est compliquée, il n'y a pas de doute. Hein. Comme beaucoup d'autres pays, il y a un contexte international qui n'est pas facile avec les prix de l'énergie, avec les problèmes d'approvisionnement, la guerre en Ukraine, les difficultés au Proche-Orient et j'en passe. Mais en Irlande, il y a peut-être une acuité particulière de ces difficultés liées en particulier au problème du logement et des services publics, notamment la santé.
Il est à la tête, ce nouveau Premier ministre, Simon Harris, on reviendra au logement dans un instant, d'une coalition de centre-droit pour aller vite, avec des inégalités structurelles. Vous avez parlé de cette crise du logement. Moi, j'ai lu beaucoup de choses sur des gens désenchantés chez les Irlandais. Est-ce que là aussi, c'est un mot qui semble convenir à l'Irlande d'aujourd'hui ?
Sans doute, il y a il me semble que c'est un mot assez juste pour décrire cette situation. Il y a peut-être un sentiment de transition. Il y avait eu cette crise sanitaire comme partout, il y avait eu la crise du Brexit qui a duré des années, hein, vous vous souvenez de ces pourparlers interminables. Alors tout ça a été surmonté et là les Irlandais se posent peut-être la question de l'avenir, puisqu'on a depuis 2020, une coalition complètement inédite, c'est-à-dire que les deux grands partis politiques ennemis, rivaux depuis un siècle, depuis la fondation de l'État irlandais, se sont retrouvés dans une coalition pour barrer la route à un parti qui émerge fortement depuis plusieurs années, le Sinn Féin, qui est au pouvoir en Irlande du Nord, qui était par le passé la vitrine politique de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise, qui a donc abandonné les armes depuis plus de 25 ans, mais qui connaît une poussée assez forte. Et si ce Sinn Féin arrivait au pouvoir à Dublin également, ce serait un bouleversement considérable. Et donc pour les partis politiques traditionnels, il est important de tout faire pour convaincre les électeurs de continuer à les soutenir, mais ce n'est pas gagné.
C'est quoi le Sinn Féin aujourd'hui pour la République d'Irlande ? Est-ce que c'est une poussée, je ne sais pas où on peut les comparer, est-ce que c'est une poussée à la Podemos à une période, une poussée à la Syriza en Grèce ? C'est une poussée qui ressemble à quoi ?
Alors effectivement, c'est une poussée très marquée à gauche. Hein, le Sinn Féin au Parlement européen siège dans le même groupe que la France insoumise, par exemple. Et il dénonce une politique du logement, une politique de santé tout à fait insuffisante. C'est ce qui explique leur succès en grande partie. Mais ils ont également une composante additionnelle, spécifique, qui est ce projet donc de réunifier l'Irlande, de mettre un terme à la partition de l'île qui remonte à 1920.
Et est-ce que ça parle aux Irlandais, ça, cette réunification ? Je me souviens très bien qu'on en a parlé au moment du Brexit, effectivement c'était revenu. Lors de sa prise de fonction, le nouveau Premier ministre, lui, a dit que c'était pas vraiment une priorité. Donc au fond, les Irlandais, eux, ils en sont où ?
Alors, si vous posez la question, la plupart des Irlandais vous répondront oui à la réunification. Dès qu'on entre dans le détail, combien ça peut coûter, qu'est-ce que ça suppose comme, comme changement, comme effort, on voit que les réponses sont beaucoup plus hésitantes, donc ce n'est pas un oui franc et massif. Et je pense que le propos du nouveau Premier ministre tient au fait que pour la plupart des Irlandais, la priorité, ce n'est pas la réunification, ça viendra en son temps, mais pas tout de suite, la priorité aujourd'hui, c'est la santé, c'est le logement, etc.
Et c'est vrai que santé et logement, c'est ce qui revient tout le temps, Christophe Gillissen, pour donner un chiffre, un studio à Dublin, un studio, on est autour de 2000 euros et parfois plus. J'ai lu que 68% des 25-29 ans vivaient encore chez leurs parents, 68%, la moyenne européenne, elle tourne autour de 42%. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pays pour que ça semble inextricable, cette histoire de logement ?
Alors, je crois qu'il faut remonter à la grande crise financière 2008. L'Irlande s'est retrouvée dans une situation peu enviable. Elle est arrivée en faillite. Elle a dû faire appel au Fonds monétaire international. C'était un pays sous tutelle, comme était
traitement de choc,
la Grèce. Exactement. Et du coup, avant cette crise, l'Irlande construisait des logements neufs à tour de bras. Il y en avait 90 000 construits chaque année en moyenne. Pendant plusieurs années, c'est tombé à zéro. Et on a vu de nombreux lotissements où le chantier s'est arrêté du jour au lendemain. Et aujourd'hui, on parle de lotissements fantômes. Après la crise, la situation s'est améliorée petit à petit. Mais aujourd'hui, vous voyez, le gouvernement fait des promesses de d'arriver à 30 000 constructions de logements nouveaux par an. Donc, il y a eu un retard colossal qui a été accumulé. Et dans le même temps, après la fin de la crise économique, il y a eu un essor économique relatif. Enfin, ça allait beaucoup mieux. Et du coup, il y a eu une immigration assez élevée, des gens qui venaient chercher du travail et qui étaient accueillis pour cela. Et depuis février 2022, il y a eu un afflux de réfugiés ukrainiens qui apprécient énormément l'accueil qui leur est réservé en Irlande. Mais l'Irlande s'est retrouvée un peu dépassée par tout cela. C'est-à-dire que...
Et un vrai retour de bâton avec des manifestations anti-immigration, des choses qu'on avait rarement vues, peut-être même jamais vues en Irlande, Christophe Gillissen ?
Alors, il faut remonter très très loin dans le passé pour trouver des événements comme ces émeutes à Dublin au mois de novembre dernier qui effectivement ont causé la consternation, la surprise. Il semblerait donc qu'il y ait effectivement une situation difficile pour beaucoup d'Irlandais qui ont du mal à se loger ou dans des conditions que vous avez rappelées à l'instant. Et puis, lorsqu'ils voient des centres d'accueil de migrants, et au bout d'un moment, ça passe mal. Et puis, vous avez aussi des personnes malveillantes qui essayent de tirer les ficelles et de provoquer des émeutes avec les réseaux sociaux pour des objectifs peu avouables.
Mais est-ce que ça veut dire, Christophe Gillissen, qu'à côté de la montée du Sinn Féin dont vous nous avez parlé, qui est donc vraiment très à gauche de l'échiquier, il y a aussi une montée, et comme partout en Europe, d'une extrême droite? Est-ce que ça existe aussi? Et surtout, ça se traduit comment?
Alors, pour l'instant, c'est très marginal parce que le Sinn Féin capte le vote protestataire, qui est à la base du succès de beaucoup de formations d'extrême droite ailleurs en Europe. Donc pour l'instant, en Irlande, ça reste marginal, mais c'est parce que le Sinn Féin est là. Et si jamais, par exemple, il arrivait au pouvoir, il ne capterait plus le vote protestataire au bout d'un moment, à ce moment-là, peut-être que les conditions seraient réunies pour l'émergence d'une formation située à l'opposé de l'échiquier politique.
Oui. Et il arriverait au pouvoir d'ailleurs. Est-ce que c'est une probabilité pour qu'il y arrive seul, ou est-ce qu'il n'y aura d'autre choix que d'entrer en coalition avec d'autres, et est-ce que ça semble possible ?
Alors, c'est le nœud du problème. C'est-à-dire qu'effectivement, avec un système comme celui utilisé en Irlande, une forme de proportionnel, on sait que le Sinn Féin va arriver en première position, comme ça avait été le cas d'ailleurs en 2020. Mais il n'aura pas la majorité absolue au Parlement tout seul. Il lui faudra trouver des partenaires. Est-ce qu'il en trouvera ? Pour l'instant, il est encore considéré comme infréquentable par plusieurs formations. Mais il y aura des tractations, il y aura des négociations, ça dépendra de ce qui leur manque pour arriver à la majorité absolue. Si c'est juste une poignée de députés, ils les trouveront, je pense. Il y aura toujours des indépendants, des... Bon, si l'écart est plus important, ils vont se retrouver en tête, mais seuls et incapables de gouverner.
Est-ce que ça veut dire que on sent bien où sont les préoccupations des Irlandais aujourd'hui, Christophe Gillissen? Est-ce que ça veut dire que les élections européennes à venir sont réellement une échéance et qu'elles montreront une direction dans laquelle va l'Irlande aujourd'hui, ou est-ce que on se dit qu'au contraire il y a une vraie indifférence et il risque d'y avoir d'ailleurs un taux de participation très faible?
Alors, les élections européennes en Irlande comme ailleurs en Europe sont des élections de second ordre. Ouais. Ce ne sont pas des élections considérées comme essentielles, comme une élection générale.
Et c'est pas de fausses élections nationales comme ça l'est chez nous, par exemple.
Alors, il y a un peu le même phénomène, une abstention un peu plus élevée, un vote protestataire plus fort, un vote sanction contre le parti au pouvoir. C'est ce qui se profile dans les sondages. Le Fine Gael, c'est-à-dire le parti dirigé par le nouveau Premier ministre, pourrait perdre 3 sièges. Alors, 3 sièges, ça semble peu, mais il faut rappeler qu'à l'échelle de l'Irlande, ils n'ont que 14 sièges au total pour l'ensemble du pays. Le Fine Gael en avait remporté 5 en 2019. Il pourrait se retrouver avec 2 seulement au mois de juin, et ce serait un désaveu assez cinglant.
On la suit, cette petite République d'Irlande, et voir un peu comment les choses tourneront pour les Européennes, mais aussi, on l'a bien compris grâce à vous, Christophe Gillissen. Après, merci beaucoup, vous êtes professeur de civilisation britannique et irlandaise à l'université de Caen-Normandie. Merci encore à nos amis à Caen.